Emilia Pardo Bazán, Conte de Noël. La nuit de Noël en enfer. Il faisait un froid sibérien, et il eût été doux de passer dans ma chambre close et dans mon lit bien chaud les dernières heures de la nuit. Mais ne pas assister à la messe de minuit, rester durant la nuit de Noël, paresseusement pelotonné au coin du feu, non, du courage, enveloppons-nous et sortons. La cité épiscopale dormait sous la mystérieuse clarté de la lune. Dans les rues désertes, on eût dit que des tentures d'une blancheur argentée succédaient aux zones de ténèbres. Jamais ces rues ne m'avaient paru aussi solitaires, aussi fantastiquement vieilles. Jamais je n'avais trouvé un aspect aussi sévère aux antiques demeures qui portent fièrement leur blason, et les sombres embrasures surmontées de chapiteaux byzantins ne m'avaient jamais semblé si effrayantes. Cette ombre noire qui glisse là-bas comme un fantôme, n'en serait-elle pas un? Mon sang se glace dans mes veines quand, sortant des ténèbres, l'ombre s'arrête devant moi, immobile, muette, un doigt sur ses lèvres. La lune verse sur elle un flot de lumière, et je distingue son visage de cire, à demi caché par le collet de son manteau et par un chapeau de feutre capricieusement bossué. Je connais cet homme. Je ne l'ai vu qu'un instant, mais je n'ai jamais oublié cette figure pensive et mélancolique. Alors les étudiants récitaient ses vers et vantaient l'ironie mordante de ses bons mots. Un an plus tard, le poète se tirait un coup de pistolet dans la tempe. Comment, après 4 lustres, le rencontrais-je à 7 heures, le 24 décembre, sur le chemin de la cathédrale? Je veux l'interroger, mais, comme dans les rêves, aucun son ne sort de ma gorge. Il ne parle pas non plus et me fait signe de le suivre dans la direction de la basilique. Au lieu d'entrer avec les fidèles, nous suivons, mon guide et moi, le mur de la façade neuve. Devant nous s'ouvre une petite porte peinte en rouge que j'avais toujours vue fermée. Un étroit passage qui descend dans les entrailles de pierre de la cathédrale, en spirale toujours plus profonde, se présente à nos yeux. Mon guide fatidique s'y engage et je le suis sans frayeur. Une végétation verdâtre, l'humidité qui suinte, donne à ce passage une grande ressemblance avec l'intérieur des aqueducs. Là-bas, au loin, tremble une petite lumière. On dirait qu'elle s'éloigne à mesure que nous nous rapprochons. Nous descendons toujours. Les côtes, les rampes, les échelons presque insensibles au début devenaient si raides et si scabreux que je croyais trébucher et rouler au lieu de descendre. La fatigue et un commencement de frayeur m'arrêtèrent un instant. Mon guide, toujours muet, se retourne et me fait signe de continuer. Ce ne sont plus des échelons, ce sont des précipices rocailleux, des blocs de granit avec d'immenses lézardes d'où menacent de tomber des pierres gigantesques. Enfin une plage aride, nue, bordant une mer huileuse et lente, aux vagues grises comme du plomb fondu. À gauche, nous apercevons par intermittence des lueurs rougeâtres. On aurait dit qu'un incendie dévorait la cabane d'un des pêcheurs de cette rive maudite. mon guide se dirigeait vers ces flammes. « Poète, lui dis-je, je n'irai pas plus loin. Je ne sais où tu me conduis, et je ne suis pas tranquille. Tu es sûrement une âme en peine, car il est certain que tu t'es frappé toi-même d'une balle mortelle, et ton tombeau offre au regard des curieux une pompeuse épitaphe dans un cimetière planté de cyprès et de lauriers roses. Je prierai pour toi, je prierai avec ferveur, si tu me ramènes à l'instant sur la place de la cathédrale. À quoi me serviraient les prières ? Répondit mon guide d'une voix calme mais désespérée, une voix qui paraissait de glace. Viens avec moi et ne réclame pas, car Virgile ne daignerait pas te servir de guide. Je fus un des moindres poètes du Parnasse romantique. La muse ne m'aimait pas assez pour me rendre immortel. J'ai voulu l'être en me fiançant à elle dans la mort. Ah, si je n'avais trouvé au-delà que le néant !» Le poète ne fit aucun geste en parlant ainsi. Son visage de marbre n'était ni changé, ni altéré. Ses yeux seuls me parurent noyés de larmes, des larmes brûlantes comme le feu. « Tu es en enfer ? » demandai-je avec autant de pitié que de terreur. Il ne répondit que par un soupir. « Mais je ne veux pas y aller !» m'écriai-je. « Éloignons-nous de ces frontières que l'espérance ne peut franchir. » Mon guide me regarda avec dédain et répondit « Je soupçonnais bien que tu aurais peur. Mais pour te montrer que la pitié n'est pas bannie, même des enfers, je t'y conduis durant la seule nuit où les supplices cessent. Ce n'est pas que l'enfer se réjouisse de la naissance du Christ. La tristesse ne nous est jamais épargnée, mais les tourments s'arrêtent. Entre sans frayeur, tu te croiras dans le monde des vivants, car tu ne verras que tristesse et qu'amertume. » En effet, personne ne se lamentait. Près de la porte se groupaient les indifférents. Je les reconnus à leur attitude, car les guêpes et les abeilles ne les tourmentaient plus. Ceux que la passion avait égarés n'étaient plus emportés dans leur effrayant tourbillon. Les couples, immobiles, se regardaient avec une angoisse infinie. La grêle et la pluie ne fouettaient plus les épaules des gourmands, et les avares se reposaient, assis sur les rocs qu'ils devaient rouler au sommet des côtes les plus raides, en les poussant de leur misérable poitrine, où la générosité n'avait pu entrer. Les abîmes de feu où les matérialistes et les épicuriens subissent le châtiment de leurs honteuses erreurs étaient éteints. Sur le sol, je vis des tronçons humains, débris des corps déchirés, des violents et des méchants qui s'efforçaient de se rejoindre pendant ces quelques heures de répit. Les têtes sanglantes se posaient sur les épaules, les mains arrachées allaient retrouver les bras. En traversant la sombre forêt d'arbres vivants, mon guide se retourna et me regarda avec une douleur tellement intense, tellement hautaine et incommensurable, que je me souvins. C'était le supplice des suicidés, d'être perpétuellement déchiré par des bûcherons impitoyables, et de supporter sur leurs dolentes branches les harpies vengeresses. Mais les horribles monstres avaient disparu. L'enfer se reposait. Je prêtai l'oreille, pas même un sanglot. Pourtant, là-bas, dans un coin, me trompais-je? Non. Quelqu'un gémit, se tord et maudit l'heure où sa mère le mit au monde. « Poète, dis-je, tu m'as menti, les supplices durent encore, je ne veux plus ni voir ni entendre, ramène-moi à la lumière. » C'est vrai, j'avais oublié de t'avertir. Il y a encore un supplicié, un seul. Cet homme assassina son rival une nuit comme celle-ci. C'est pour cela que la grâce qui nous est accordée ne s'étend pas jusqu'à lui. Mais viens, je vais te montrer la nuit de Noël en purgatoire. La nuit de Noël en purgatoire. Nous allons encore voir des peines, demandai-je à mon poète, avec le désir de voir se terminer notre voyage. Des peines, soupira douloureusement le condamné. Ah, que ne puis-je souffrir celle que je vais te montrer ? Il n'y a de peine véritable que celle qui ne doit pas finir. Le temps se consume d'un jour à l'autre, et les heures s'absorbent comme l'eau dans le sable. Mais dans la région que j'habite et que tu viens de quitter, il n'y a ni jour ni heure. Il n'y a qu'une durée infinie, sans limite, sans succession, sans forme particulière. On devient fou en y pensant. Pleine de compassion, je gardai le silence. Et le poète, baissant la tête sur sa poitrine, cessa de parler. Nous approchions de l'île du Purgatoire. On distinguait ses côtes dentelées, ses rivages, et, dans un lointain vaporeux, ses vallons se dessinaient clairement sous une lumière qui ressemblait beaucoup à celle de la lune, mais qui permettait de distinguer les couleurs. Les ondes devenaient plus phosphorescentes à mesure que nous nous rapprochions. Elles prenaient cette transparence pâlie de la pierre qu'on a si justement nommée aigue marine. Tout était vert autour de nous, et l'île, plantée d'arbres touffus, verdoyait aussi, comme une gigantesque émeraude enchâssée dans l'orfin des sables. On voyait aborder sans cesse des petites barques remplies d'âmes, multitudes silencieuses vêtues de vertes tuniques, peut-être faites de feuillage. La clarté verdâtre répandue dans l'air donnait au visage une couleur singulière. On eût dit qu'il se reflétait dans une glace très primitive ou qu'un verre luisant les éclairait de sa petite lueur phosphorique. « Tout est vert ici, » dis-je au poète. « Toi seul parais couleur de cire. » « Tu en comprendras fort bien la raison, » répondit le suicidé avec un calme terrifiant. « Le vert est la couleur de la nature » qui ressuscite à chaque printemps. Dans le purgatoire, tu remarqueras toujours cette nuance joyeuse et juvénile. L'enfer est rouge, le purgatoire vert. Vois ces prairies, ces forêts, ces riches plantations. Nous entrions dans une anse qu'entourait une végétation tropicale. La barque s'arrêta. Prise dans une masse d'algues fines comme des chevelures et fortes comme des cordages. Nous sautons sur les pierres qui forment un môle naturel et nous nous frayons un passage à travers les broussailles. Nous arrivons à une grande esplanade où fourmillait une immense multitude. C'étaient les âmes du purgatoire. L'habitude de les voir représentées au milieu des flammes m'empêchait de les reconnaître. « Il n'y a donc pas de feu ici ?» demandai-je au poète. « S'il n'y en a pas même en enfer cette nuit, comment veux-tu qu'il y en ait ici ?» répondit mon guide. « D'ailleurs, ici, le feu n'est jamais visible. Les peintures d'âmes du purgatoire que l'on voit sur la terre rendent accessible au sens ce que la raison ne comprendrait peut-être pas, c'est-à-dire que l'on brûle intérieurement. On est atteint d'une fièvre qui n'a jamais de rémission, si ce n'est cette nuit. Cette fièvre dissout le sang, sèche le cœur, embrase le cerveau et produit un continuel délire. Le purgatoire est plein de fous qui veulent tout transformer et embellir, et dont les conceptions sont à la fois grandioses et absurdes. Ils n'ont d'autres instants de répit que ceux où ils peuvent approcher de cette petite source qui coule ici entre deux rochers. L'île est formée par les larmes de ceux qui prient pour les pauvres âmes du purgatoire et soupçonnent qu'il y a parmi elles quelqu'un qu'ils ont aimé. Une seule goutte de cette fontaine miraculeuse calme la fièvre des âmes souffrantes. Par malheur, elle coule quelquefois si peu qu'on ne peut même pas humecter ses lèvres. Il y a des époques dans l'année où elle tarit complètement. En échange, le jour des morts, elle jaillit impétueuse et abondante, et son murmure console les âmes. As-tu passé le jour des morts à la campagne? Ne t'a-t-il pas semblé que, dans la danse des feuilles mortes, dans le hurlement strident des tempêtes d'hiver, dans le bruit de la pluie et le grondement de l'océan qui se brise contre les roches, il y a des voix mystérieuses, des voix de l'autre monde? Ah, il y en a! Comme j'envie les morts qui reçoivent les secours des vivants qu'ils ont aimés. Moi, personne ne peut me secourir. Et le poète se cache le visage dans ses mains, tandis qu'un cri rauque s'échappait de sa gorge. L'esplanade était une prairie épaisse et douce dont l'herbe montait jusqu'à nos genoux. Au milieu se trouvait un arbre immense, singulier, paradisiaque. De son tronc élevé s'échappaient deux branches horizontales et une autre verticale. Elles étaient gigantesques et couvertes de feuillage. L'innombrable cohorte des âmes fixait obstinément les yeux sur cet arbre, comme s'il allait se produire en lui quelque chose de très important. Bientôt, joignant les mains, elles s'écrièrent. « Voyez, voyez, le miracle s'accomplit, l'arbre fleurit !» En effet, sur cette croix gigantesque apparurent des points rouges, semblables tout d'abord à des grains de corail, mais qui, s'agrandissant, couvrirent la verdure de taches rouges. Un parfum suave se répandit dans l'air. Et les taches vermeilles prirent la forme de fleurs qui ressemblaient tout à la fois à des roses et à de fraîches et saignantes blessures. Quand l'arbre fleurit, la multitude des âmes fit entendre des hymnes d'adoration. L'île entière résonna comme une harpe. Les collines, les forêts, les grottes, les prairies vibrèrent musicalement. Et le poète, découvrant son visage, gémit d'un accent sépulcral « Heureux ceux qui espèrent !» La nuit de Noël au ciel. Comment des limbes brumeux ai-je pu monter aux radieux empyrées? Je me sentis tout à coup entourée d'une onde bleue, subtile, très délicate, que je comparerais à de la turquoise dissoute, si j'avais jamais vu cette pierre précieuse se dissoudre. L'allégresse, l'exaltation de tout mon être, le ravissement de mes sens et de mes facultés, tout me disait que tu es heureuse, tu es au ciel. Mais au bout de quelques instants, ma joie se changea en étonnement, en vague inquiétude. De l'azur au-dessus et au-dessous de moi, de l'azur de tous côtés, cela était étrange et devenait un peu monotone. La fête de Noël, dans la demeure des élus, se réduirait-elle à ce bain des terres? Tant d'imagination et de variété dans les supplices, et si peu dans les célestes récompenses? Telles étaient mes irrévérencieuses pensées, quand, glissant sur la superficie du lac mystérieux, un homme vint à moi, vêtu d'un pourpoint de velours noir et couronné de lauriers. Son visage brun ressemblait à celui de Cervantes, mais ce n'était pas lui, car, dans le mélodieux italien du Seicento, il m'assura être l'auteur de la Jérusalem, le poète sorrentin mélancolique, maniaque et amoureux. J'ai deviné, me dit-il, tes préoccupations, et je veux te prouver que l'on ne s'ennuie pas au ciel. On se figure que le ciel est monotone, parce qu'il est par essence ineffable. On peut expliquer l'enfer et le purgatoire au moyen des paroles. Le ciel, c'est impossible. Un mortel sait ce que sont les maux et les souffrances, mais la béatitude éternelle, il faut la posséder pour la comprendre. Cette nuit seulement, nuit de Noël, il nous est permis de donner aux pauvres habitants de la terre un aperçu du bonheur suprême. Je te dirai tout d'abord que le ciel n'est pas l'immobilité et l'inertie. Au contraire, c'est la vie à flot, c'est l'activité intense et toujours féconde. Je regardai les yeux du Tasse, troublé pendant sa vie par la démence et la douleur. Ils brillaient maintenant comme des étoiles, claires, pures, magnifiques, révélant l'âme heureuse et glorifiée. J'enviais le regard du poète. Comme il était différent d'un autre, de celui du suicidé, qui avait pesé sur moi, sinistre et terrifiant, tandis qu'il me servait de guide. Le Tasse ôta sa couronne de laurier et m'en offrit une feuille. Le talisman fit son effet. Je vis l'azur ambiant s'ouvrir comme un rideau de satin, et, tout au loin, j'aperçus les splendeurs de la gloire. Dans une perspective splendide, je vis la cité sainte qui s'étend sur des millions de lieues et qui n'est qu'or et pierre précieuse. Brillante et transparente comme le cristal, ses tours et ses créneaux sont d'hyacinthe et de topaze. Son atmosphère est lumineuse, ses alentours sont des prairies d'herbes fraîches et de fleurs rares que caresse une brise embaumée. « Voilà, me dit le Tasse, la Jérusalem céleste, telle que l'imaginaire tel à décrivir les auteurs mystiques. » C'est là qu'habitent les bienheureux plongés dans un océan de bonheur qui les pénètre et les enveloppe. Tu devrais bien savoir cela par saint Anselme. Ils sont semblables à des éponges qui auraient autant de sens pour jouir que de pores, et qui, baignés dans une mer de lait et de miel, absorberaient par mille bouches cette douceur et cette suavité. « Ah ! M'écriai-je, je ne comprends pas, je ne puis me figurer cet état bienheureux. Et je crois, poète, que tu ne parviendras pas à élever jusque-là ma faible intelligence. J'écoute tes paroles, elles me font plaisir, mais je ne vois pas ce qu'elles expriment. Je voudrais déjà être une éponge. » Le Tasse me jeta un de ses beaux regards, humide de compassion. « Poverima, répondit-il, voyons si je serai plus heureux en me servant d'image à ta convenance. Tu aimes les arts, n'est-ce pas? La musique, par exemple. Poète, parle-moi de lettres et non de notes et d'accords. Il y a plus de musique dans tes strophes que dans aucun opéra. » Ah, incorrigible, s'écria-t-il. Voyons si je puis te mettre sur le chemin de la béatitude. Il faut prendre chaque nature par son faible. Chez toi, c'est la littérature. Pour te donner envie de gagner le ciel, sache que tu y trouveras les grands poètes et les auteurs illustres de tous les siècles et de toutes les nations. Tu pourras t'entretenir avec eux, ou, pour mieux dire, les écouter. Tu comprendras et goûteras avec délice le grec d'Homère, de Pindare et de Sappho, l'hébreu de Job et de David, le latin de Virgile. Je te dirai la fable de la rose et Dante t'offrira quelques-uns de ses terzine. Comprends-tu maintenant les charmes du paradis? Si le bonheur des élus consiste à vivre ainsi sans interrompre l'activité de la pensée, mais au contraire en la complétant, à étendre la sphère de la jouissance esthétique, à satisfaire toutes les curiosités qui nous tourmentent, oh, alors je dis que ce bonheur est grand. Quel plaisir immense que de revivre l'histoire, d'en illuminer les ténèbres, de la connaître telle qu'elle fut, et non telle que la donnent les pâles chroniques ou les récits apprêtés des historiographes. Justement, annonça le Tasse, tu vas jouir sur le champ de ce plaisir. Tu vas voir la naissance du Christ telle qu'elle s'est passée. Hâtons-nous, l'instant solennel approche. Je regardais avec la plus ardente curiosité, mais je ne pus rien voir. La clarté m'aveuglait. Un merveilleux fourmillement sidéral, une immense voie lactée, montée de la grotte en scintillant et versée des flots de lumière blanche, au milieu de laquelle on distinguait un enfant nouveau-né, plus brillant que le soleil et entouré d'une auréole de rayons. « Cette lumière me gêne, » dis-je à mon guide. « Je ne vois pas les détails prosaïques, humbles et attendrissants qui m'auraient charmé. »« Tu es mortel, » répondit le poète. « Tu ne peux comprendre. »« Cette lumière qui t'aveugle vient de ton imagination. Elle n'existe pas. »« Ne vois-tu pas le nouveau-né pleurant et tremblant de froid ? Ne vois-tu pas sa mère ?» Non, de la lumière, toujours plus de lumière, répondis-je en gémissant, car mes yeux ne pouvaient plus en supporter l'éclat, et je voyais danser des milliers d'atomes d'abord rouges, puis verts émeraudes, puis violets, jusqu'à ce que, jetant un cri, le cri d'angoisse de celui qui perd la vue, je m'écriai « Rien, rien, obscurité complète !» Et j'étendis les mains pour trouver un appui.